Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. J'ai reçu il y a quelque temps en entretien l'historienne Judith Reinhorn, qui est spécialiste de la santé au travail au 19e et au 20e siècle. On a abordé ensemble l'histoire de la révolution industrielle, de l'installation de l'industrie en ville et des conséquences que cela a eues sur l'environnement urbain et sur la santé des travailleurs. Mais avant d'aller plus loin dans l'entretien intégral qui sera disponible dans quelques jours, je vous propose de nous attarder maintenant sur un point majeur. Concrètement, à quoi ressemblaient les conditions de travail dans les usines à cette époque? Étaient-elles fort différentes de celles que l'on connaît actuellement? Et si oui, en quoi? Comment ont-elles évolué tout au long du 19e siècle? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui en nous attardant sur un exemple bien précis, celui des enfants. Alors, bonne écoute. Déjà, avant peut-être d'enchaîner sur cette question de la santé des gens qui bossent dans les usines, quelles étaient les conditions de travail dans ces usines? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, un plein temps à l'époque, c'est pas nos 35 heures.
C'est clair. Alors, les conditions, bon, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais les conditions de travail, ben, ce sont des conditions globalement assez désastreuses pour une raison très simple, c'est que d'abord, il n'y a pas de régulation. Donc, quand l'industrie naît, il n'y a pas de régulation sur les formes de travail, sur la durée du travail, durée qu'elle soit durée sur la journée ou durée sur l'année. Il n'y a pas de vacances. Enfin, voilà, non, on travaille généralement au moins 6 jours sur 7 dans l'industrie, voire tous les jours. Et là encore, il y a une diversité de situations. J'ai absolument pas, on n'a pas le temps et je pense que ce n'est pas l'objet ici de rentrer dans le détail, mais il y a une diversité absolument massive. Maintenant, je dirais donc globalement, c'est vrai qu'on a l'image portée par la littérature, par Dickens, du travail des enfants par exemple, ou par les grandes enquêtes de l'époque, hein, tout simplement, qui évidemment apportent la connaissance, des connaissances hein, sur les conditions de travail dans l'industrie qui sont absolument désastreuses. On travaille donc tout petit enfant, femme, homme, dans des conditions extrêmement difficiles. Sur le travail des enfants, par exemple, hein, je voudrais quand même en parler 2 minutes parce que c'est probablement ce qui, aujourd'hui, nous semble le plus effarant, en quelque sorte, hein, de faire travailler des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Évidemment, les enfants sont utilisés en particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont petits, ce sont des enfants, et donc, comme ils sont petits, ils peuvent se glisser dans les machines, sous les machines, etc. Alors, on utilise par exemple les enfants dans l'industrie textile, pour passer sous les machines, quand on commence à vraiment mécaniser l'industrie textile à partir des années 1820-1830, parce que c'est très fréquent, par exemple, que des fils cassent dans les fils à tisser, alors pas dans le fil qu'on tisse, mais dans la trame en fait, hein, du tissu qui est tendu sur les métiers à tisser. Des fils cassent, évidemment, si le fil casse, bah, problème, tout s'arrête. Donc, on envoie des enfants qui passent sous le métier à tisser et puis qui viennent faire un petit nœud, hein, réparer le truc. Sans arrêter la machine. Donc, on imagine le nombre d'accidents, évidemment, absolument colossal. C'est la même chose pour les femmes, qui elles aussi sont plus petites, hein, souvent, et qu'on utilise beaucoup. Et donc, les accidents du travail, les cheveux arrachés dans les machines, les membres coupés, les membres écrasés, etc. C'est une réalité absolument, absolument terrifiante. Donc, ce sont des conditions qui sont globalement terrifiantes. On pourrait dire que progressivement, elles vont s'améliorer. Alors moi, qui toujours tendance à dire, voilà, il ne faut pas voir l'histoire comme un grand récit progressiste ou qui va toujours vers le mieux. Bon, sur la régulation du travail, on peut dire quand même qu'il y a des améliorations très, très nettes et évidentes hein, au cours du 19e siècle. S'il reprend l'exemple des enfants, ce sont les Anglais. Les Anglais étant entrés les premiers dans le phénomène de l'industrialisation, ce sont aussi les Anglais qui se sont intéressés au travail des enfants. Donc, en 1833, le Factory Act, donc c'est la loi sur les usines, hein, dans l'industrie textile, interdit le travail des enfants de moins de 9 ans. D'accord ? Donc, à partir de 9 ans, on peut travailler et limite la durée du travail en fonction de l'âge. Par exemple, dit les enfants qui ont entre 9 et 14 ans, ils ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. C'est vraiment la première régulation importante, c'est 1833 en Angleterre. progressivement, au cours du 19e siècle, l'âge va augmenter, l'âge de travail des enfants. En France, c'est en 1841, donc une première loi sur le travail des enfants est votée pour le travail dans les manufactures et les ateliers. Attention, ça ne concerne que l'industrie. Du tout la même chose, évidemment, dans l'agriculture, où les enfants continuent de travailler, ou dans d'autres espaces. Et là, en France, en 1941, on fixe le travail des enfants à 8 ans. Et la journée pour les enfants de 8 à 12 ans limitée à 8 heures. Voilà. Et ça ne peut pas être du travail de nuit, ça ne peut être que du travail de jour. Et encore une fois, bon, ça va s'améliorer au cours du siècle, mais il faut faire très attention, ce n'est pas parce qu'il y a une législation qu'elle est respectée. C'est la loi, mais pour autant, on constate qu'il y a encore énormément d'enfants beaucoup plus jeunes que ça qui travaillent. Il y a aussi énormément d'enfants qui travaillent de manière non contrôlée, évidemment, donc beaucoup plus jeunes. L'idée, c'est le cas dans l'agriculture, mais aussi dans quantité de secteurs industriels ou artisanaux. Donc, voilà, ce qui va vraiment, vraiment, non pas mettre fin, loin de là, mais mettre un coup d'arrêt assez brutal quand même au travail des enfants, en tout cas le limiter, c'est tout simplement la généralisation de l'enseignement pour les enfants. C'est l'école obligatoire, en fait. Et c'est le cas à la fois donc, avec les fameuses lois Jules Ferry au début des années 1880 en France, mais c'est le cas en Angleterre aussi, à partir des années 80, 90, 1900. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que parce que les enfants vont à l'école, ils ne travaillent pas, parce que bien souvent, et là encore, on a l'image du petit gamin anglais qui, avant d'aller à l'école le matin, se fait le livreur de journaux, par exemple, vend les journaux de 5h, 6h du matin avant d'aller à l'école, ou qui va à l'usine après l'école, ou qui n'est pas scolarisé à plein temps, qui ne va pas qu'une partie de sa journée à l'école. Mais il est clair que la scolarisation, c'est vraiment ce qui va diminuer de manière importante le travail des enfants, même si c'est un peu contre-intuitif, mais la plupart des parents dans les classes populaires se sont opposés d'abord à l'école parce que, évidemment, l'enfant qui travaille, c'est un revenu pour le foyer. Et donc, il y a une concurrence, en quelque sorte, entre l'école et le travail pour les enfants. Et donc, il faudra que l'école devienne obligatoire et aussi qu'elle devienne gratuite, ce qui, évidemment, était un obstacle très important. Et puis, il faut aussi, finalement, le développement des allocations familiales, donc de manière plus tardive, vraiment au début du XXe siècle, et voire au-delà, ou en tout cas de petites allocations qui vont, en quelque sorte, venir compenser pour les parents la perte sèche de salaire que constitue le fait que les enfants travaillent moins ou travaillent peu, moins, on va dire.
Merci d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À très vite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire. Je le lirai avec plaisir.